ce matin, on reçoit Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme et cofondateur du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Et bien sûr, j'imagine qu'il va être question de la libération d'Olivier Van de Castel.
Et effectivement, il va être question de la libération d'Olivier Van de Castel. Bonjour Claude Moniquet.
Bonjour.
Comme l'a rappelé Didier, vous êtes expert en contre-terrorisme et cofondateur du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Olivier Van de Castel est arrivé en Belgique vendredi soir après presque un an et demi de détention en Iran. Alors pour commencer, Claude Moniquet, s'attendait-on à ce qu'il soit libéré ?
Oui, on s'attendait à ce qu'il soit libéré. Il y avait déjà, il y a quelques semaines, il y avait eu un mouvement dans ce sens avec une annonce qui avait été faite à Téhéran, qui avait été démentie par les autorités belges et par la famille, disant qu'il allait être libéré. On savait que des négociations avaient lieu, des négociations très avancées entre Bruxelles et Téhéran. Donc oui, sa libération n'est pas une surprise.
Doit-on y voir justement un bon travail de la part des autorités belges dans les négociations ?
Alors là, je serais plus partagé. Dans le sens où on est arrivé, où les autorités belges sont arrivées à faire libérer un homme qui était totalement injustement détenu, qui était réellement un otage d'un régime terroriste, oui, le résultat est un bon résultat et le travail a été bien fait. Maintenant, le problème, c'est que le prix qui a été payé pour cette libération est un prix qui est inacceptable et la méthode n'est pas acceptable.
Justement, vous en parlez, donc Olivier Van de Castel a été libéré, c'est parce que la Belgique a accepté de relâcher Assadollah Assadi. Ingrid Betancourt, ex-otage, a dénoncé une violation de l'état de droit de la Belgique. Qu'en pensez ?
Je suis d'accord avec elle. Alors de nouveau, c'est une question très délicate. Toute la Belgique se réjouit évidemment de la libération de Van de Castel et je ne voudrais pas faire croire que je ne m'en réjouis pas. Je suis comme tout le monde, je suis très heureux que cet homme soit libre. Maintenant, la réalité, c'est quoi ? La réalité, c'est que dans un état de droit, il existe un principe sacré qui est celui de la séparation des pouvoirs, le judiciaire, le législatif et l'exécutif. Et il y a une interdiction pour chacun de ces pouvoirs d'essayer d'influencer un autre, de s'ingérer dans le travail d'un autre pouvoir. C'est exactement ce que l'exécutif a fait. L'exécutif a décidé qu'en dépit d'une décision de justice, une première décision qui était de condamner Assadi à 20 ans de prison pour terrorisme. Il pouvait être libéré et il a bafoué une deuxième décision. La Cour constitutionnelle avait clairement établi en mars dernier que le traité d'extradition pouvait être appliqué ou que Assadi pouvait être libéré à condition que les victimes potentielles de son attentat, ceux qui étaient partis civils au procès et dont d'ailleurs j'étais un des experts lors de ce procès, soient prévenus et puissent se tourner vers un tribunal pour faire valoir leurs droits. Et ça n'a pas été le cas. Donc il y a eu un double déni de droit dans cette affaire.
Toujours selon Ingrid Betancourt, elle a déclaré « La libération d'un terroriste dangereux comme Assadi encouragera le régime iranien à plus de terrorisme en Europe et à plus de prises d'otages à l'avenir ». Au final, l'Iran sort vainqueur de cet échange.
L'Iran sort clairement vainqueur de cet échange parce que l'Iran connaît nos faiblesses, mais ça n'est pas nouveau. L'acte de naissance de la République islamique d'Iran, c'est la prise d'otages des diplomates américains qui avait duré 445 jours entre 79 et 80. Après, on a eu la crise des otages du Liban qui a duré des années avec des dizaines d'otages, entre autres des Français, qui avaient été retenus au Liban dans des conditions atroces par le Hezbollah. Et le Hezbollah, tout le monde sait, même si ça se passe au Liban, que c'est le bras armé de l'Iran. Donc ce n'est que la continuité d'une activité terroriste et de prise d'otages et de chantage de l'Iran. Et effectivement, le problème, c'est qu'on a libéré un homme aujourd'hui, et ça, c'est très très bien, mais il est très clair que cela ne fera qu'encourager les Iraniens dans l'avenir, dès qu'ils auront un problème avec un pays européen ou autre, à prendre des otages sous un prétexte quelconque, à les condamner à 250 ans ou 40 ans ou de prison ou 400 coups de fouet, et à attendre qu'on fasse un échange. Donc, en fait, le monde est moins sûr aujourd'hui qu'il ne l'était avant.
La Belgique était prête à tout, à n'importe quel prix, pour libérer Olivier Van de Castel ?
Il y avait d'une part, et ça je ne le lis pas, personne ne le lit, il y avait une responsabilité évidente de la Belgique pour faire sortir de prison un homme qui était injustement détenu et qui était en plus dans un état de santé qui pouvait faire présager le pire, ou en tout cas une évolution très négative. Ça, c'était nécessaire. Est-ce que la Belgique était prête à tout ? Elle a montré que oui. Mais au-delà de la Belgique, ce qui est déplorable, c'est l'attitude européenne. Au lieu de céder, si chacun négociait avec l'Iran de manière isolée, ben, on finira toujours par céder parce que face à l'Iran, chaque pays est un peu perdu. Si l'Europe avait fait front dans l'affaire Assadi, si l'Europe avait fait front face à la diplomatie des otages pratiquée par l'Iran, on aurait peut-être pu trouver d'autres méthodes et d'autres façons d'arriver à cette libération. Et ça n'a pas été le cas.
Est-ce que ça va faire un précédent? On sait qu'il y a un jeune homme qui est détenu au Cambodge. Est-ce que maintenant la Belgique va devoir céder à toutes les demandes de libération?
Je pense qu'on a perdu la liaison avec Claude Moniquet. On va essayer de le joindre une nouvelle fois. Vous évoquiez à l'instant, Blaise, le fait qu'il y ait une famille belge qui est en train d'interpeller le gouvernement aussi, puisque leur fils est prisonnier, si je ne m'abuse,
exactement,
au Cambodge.
Un brugeois emprisonné au Cambodge depuis 4 ans, Tanguy Thaler, qui est donc condamné à la prison à vie pour trafic de drogue. Ses proches clament son innocence sur place. On voulait justement savoir si ça pouvait créer peut-être un précédent pour la Belgique et pour cette famille brugeoise.
Nous avions perdu Claude Moniquet, nous l'avons récupéré, mais également une autre intervenante dans ce dossier d'Olivier Van de Castel dans Vue de Belgique. Il s'agit de Firouzeina Avandi, sociologue, professeur honoraire à l'ULB, spécialiste de l'Iran, auteur de 2 livres notamment, Iran et puis Être une femme en Iran. Blaise, je vous laisse le soin de discuter avec nos deux invités.
Bonjour Firouzeina Avandi.
Bonjour.
Alors, nous l'avons dit tout au long de cette matinale, Olivier Van de Castel est arrivé en Belgique vendredi soir, mais cela rime également avec la libération d'Assadollah Assadi. Alors, comment voit-on la nouvelle vue d'Iran ?
Écoutez, du point de vue de l'Iran, évidemment, les autorités ont accueilli avec faste Assadi en Iran, mais je ne pense pas que du point de vue de la population, il y a beaucoup de conséquences. La population iranienne est vraiment préoccupée par d'autres éléments que le retour d'Assadi, les problèmes économiques, les problèmes de liberté, les exécutions. Et donc, c'est surtout les autorités qui essayent d'en faire un coup politique, si vous voulez.
C'était justement ma prochaine question. Pour les autorités politiques iraniennes, ça permettait de camoufler les problèmes du pays ?
Oui, de toute façon, les Iraniens sont en train de souffler le chaud et le froid et essayent par tous les moyens de faire taire les contestations. Et donc, effectivement, ceci peut être pour eux un moyen, entre autres, de détourner l'attention des Iraniens sur autre chose et une victoire à l'international. C'est comme ça qu'ils peuvent le présenter, mais comme je vous le disais, ça n'intéresse pas particulièrement les Iraniens préoccupés par d'autres problèmes. Non pas qu'ils se désintéressent de ce dossier, mais ils ont d'autres préoccupations.
Vu de Belgique, on dit qu'on a grossièrement relâché un terroriste. C'est vrai ?
Écoutez, l'opinion publique en Belgique est quand même extrêmement divisée. Effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui vont dans ce sens-là, relâcher un terroriste, lâcher, etc. Néanmoins, il faut dire que la majorité de la population belge appuie le retour de Ludwig van de Castel. Et de toute façon, pour ce qui est de la Belgique, y avait-il autre chose à faire que d'essayer de faire libérer un ressortissant qui était en très mauvais état et pour qui on pouvait craindre le pire? Je ne pense pas qu'il faudrait rentrer dans ces polémiques dans la mesure où, en ce qui concerne la situation globale, relâcher ce terroriste ne change rien à la position de l'Iran ni à tout ce que l'Iran fait de négatif à l'international.
Ingrid Betancourt, ex-otage, a déclaré « La libération d'un terroriste dangereux comme Assadi encouragera le régime iranien à plus de terrorisme en Europe et à plus de prises d'otages à l'avenir. L'Iran sort vainqueur de cet échange ?»
Je ne pense pas qu'on puisse parler de victoire de l'Iran. Effectivement, il y a un point pour l'Iran puisqu'ils ont pu faire libérer leurs compatriotes terroristes. Néanmoins, on ne peut pas non plus dire que c'est vraiment une victoire pour l'Iran. Cela étant, je peux comprendre aussi la situation de, enfin, l'affirmation d'Ingrid Betancourt, qui est un soutien assez fort du Conseil national de la résistance iranienne, qui était le groupe visé par l'attentat des jouets de Assadi, et donc elle faisait partie des personnes qui ont essayé d'arrêter le processus de transfert. Mais il ne faut pas non plus se focaliser sur la question belge. Vous savez, il y a des otages de tous les pays et depuis 1979, énormément d'otages ont été pris en Iran et il y a tous les jours des négociations de chacun des pays occidentaux pour pouvoir libérer ces otages. Il ne faut pas monter cette histoire et en faire un drame inextricable.
L'Iran est historiquement un pays qui a recours aux prises d'otages ?
Tout à fait, tout à fait. La République islamique d'Iran a fait de la prise d'otages une de ses marques de fabrique depuis 1979. C'est le cas, il faut se rappeler, les 52 otages américains retenus dans leur propre ambassade, les 52 diplomates iraniens retenus 444 jours pour faire pression sur les États-Unis. Et depuis, cela n'a pas cessé. L'Iran prend des otages, soit avec un but précis pour faire libérer des prisonniers, des terroristes dans d'autres pays, ou bien pour faire un échange financier, ou pour libérer des comptes qui ont été bloqués, ou encore pour faire ramener des armes qui avaient été éventuellement promises et que la communauté internationale ne rend pas à l'Iran. Donc, toutes les tactiques sont bonnes pour faire pression et malheureusement, la prise d'otages est devenue assez habituelle pour l'Iran. Il arrive aussi que les Iraniens prennent des otages dans la perspective de un jour pouvoir demander quelque chose en échange. C'est vraiment dramatique.
Firouzé Navandi, nous sommes également avec Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme et cofondateur du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Nous avons retrouvé Claude Moniquet, n'est-ce pas ?
Absolument.
Claude Moniquet, j'avais une question à vous poser. Alors, Olivier Van de Castel a été libéré. On a également un brugeois, Tanguy Thaler, qui est condamné à la prison à vie pour trafic de drogue au Cambodge. Ses proches clament son innocence. Est-ce que la libération d'Olivier Van de Castel va faire un précédent ?
Ça, très honnêtement, je suis incapable de vous répondre. Avec l'affaire Thunder, on est sur un cas totalement différent. Mais chacun sait que les Asiatiques, dont le Cambodge et surtout Singapour, ont une législation extrêmement répressive sur le trafic de stupéfiants. Il arrive que des Européens qui se promènent par là prennent des risques inconsidérés, soit pour leur consommation personnelle, soit pour trafic. Singapour, par exemple, ne négocie quasiment jamais. Il est arrivé que Singapour exécute, pende des Européens soupçonnés de trafic de stupéfiants. Donc, je serais moins optimiste. On est sur un cas totalement différent. Maintenant, j'imagine que si la diplomatie belge a pu se démener à raison, je le répète, même si je désapprouve la méthode, à raison pour libérer Olivier Van de Castel, on peut imaginer qu'on fera aussi un effort pour Tanzer.
Firouzé Navandi, parlons de l'Europe, du rôle de l'Europe dans cette libération. Est-ce que l'Europe a eu un rôle ou bien c'est vraiment chacun son rôle face à l'Iran et face aux otages en Iran ?
À vrai dire, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne connais pas les dessous de l'affaire, mais je pense que aujourd'hui, chaque pays essaye de négocier individuellement pour la libération de ces otages. Et effectivement, s'il y avait une action concertée, des discussions et donc globale sur la question des otages, ce serait quand même un pas de plus pour contrer cette politique, ce qu'on appelle aujourd'hui de la diplomatie des otages, que déploie l'Iran un petit peu partout dans le monde. Je ne sais pas si pour le cas particulier d'Olivier Van de Castel, une action européenne a pu être mise en place.
Pourquoi, on en parlait tout à l'heure, c'est historique en Iran la politique des prises d'otages. Pourquoi ? Y a-t-il une explication ?
Une explication rationnelle, ça me semble être vraiment la politique de bras de fer mis en place par ce régime et une manière, entre autres, de faire pression parce que quand vous êtes un État considéré comme voyou ou un État qui n'a pas sa place sur la scène internationale, vous allez utiliser les armes du faible, disons, pour pouvoir faire avancer vos dossiers. L'Iran se réclame du droit international et des droits de l'homme quand ça l'arrange et bafoue totalement ces mêmes droits lorsque également il peut s'en servir. C'est ça qui est difficile dans les relations avec l'Iran. C'est inattendu, on ne sait jamais à quoi s'attendre et donc on est beaucoup pris au dépourvu, bien évidemment.
Bien, j'ai une dernière question pour vous deux, qui veut peut y répondre. À supposer, par exemple, qu'il n'y ait pas eu de monnaie d'échange pour la Belgique vis-à-vis de l'Iran, qu'il n'y ait pas eu ce terroriste condamné à 20 ans pour faire office de monnaie d'échange, je le répète, qu'est-ce que la Belgique aurait pu invoquer pour pouvoir faire libérer un ressortissant condamné injustement dans un pays tiers pour le rapatrier? Est-ce que c'est une cause perdue d'avance ou bien il y a vraiment des tractations et peut-être même des rançons financières? Mais à ce moment-là, ça devient vraiment des raptes purs et durs.
Si je peux répondre, agit de cette sorte avec d'autres pays. Il y a d'autres otages qui ont été libérés avec des rançons. Et donc, effectivement, ce qui est particulier pour l'Iran, c'est que c'est un État qui agit de manière terroriste. Et effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les cas sont différents, mais il y a des tractations financières. Exemple, il y a des tractations sur la libération de comptes et également sur les armes pour fournir des armes.
Bien, merci beaucoup. Claude, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, tout à fait. Je pense de manière très. Des négociations pour libérer des otages, il y en a tout le temps. Même Israël a négocié, on le sait, dans l'affaire Shalit, par exemple, avec le Hamas. Ça, c'est. Les États ont le devoir de venir au secours de leurs citoyens pris en otage. Mais je vais répondre à votre question d'une autre manière. S'il n'y avait pas eu de terroristes iraniens prisonniers en Belgique, Olivier Van de Castel n'aurait jamais été arrêté injustement et mis en prison injustement. Il a été arrêté pour servir d'otage, pour faire sortir M. Assadi. Point final.
Oui.
Firouzeh Nahavandi, vous êtes sociologue, professeur honoraire à l'ULB, spécialiste de l'Iran, auteur de deux livres, Iran et être femme en Iran. Claude Moniquet, vous êtes expert en contre-terrorisme et cofondateur du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Merci à vous deux d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka.
Merci.